cultivait son apparence, on ne pensait plus qu'à ça.
Est-ce qu'on passe à la...
au dernier chapitre,
voilà. C'est-à-dire valeurs et identité, voilà. Que moi j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là, mais je vais parler que peu de choses. Alors, pour reprendre la personne que j'ai citée tout à l'heure, Marie-Hélène Fankhauser, c'est une psychiatre et psychothérapeute qui s'est formée à l'université de Lausanne et qui a travaillé ensuite dans le canton de Vaud. Et elle nous donne un article sur le sujet maternité, paternité, images et expériences. Mais en fait, elle ne va pas tellement parler de la maternité ou de la paternité, elle va parler de la parentalité, je dirais, dans cet article. Et alors, elle part d'un tableau qui se trouve d'ailleurs représenté dans la revue Présence, donc de Sexe est un monde, un tableau de Vermeer qui montre une femme très enceinte vers la fin de sa grossesse qui lit une lettre et qui, c'est un tableau qui donne une image de la maternité très paisible, je dirais, et très dans ce qu'elle peut avoir de plus achevé, de plus... Comment je dirais, de plus rond, de plus doux, enfin, la maternité idéale. Et elle dit, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait s'identifier à ce portrait parce qu'on a résolu beaucoup de problèmes avant la maternité, puisqu'on a la contraception, on peut choisir quand on veut un enfant, etc. On est très surveillé pendant la grossesse, pendant l'accouchement, donc on a aussi résolu plus ou moins les problèmes de l'après grossesse, il n'y a plus beaucoup de mortalité infantile chez nous, en tout cas, hein, dans les pays industriels. Donc, c'est vrai qu'on pourrait assez facilement s'identifier à cette image de la maternité. Mais elle dit, mais quand même, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ça se passe pas toujours aussi bien. Et alors, bon, là, elle dit, on n'a pas toujours été parents de la même façon à travers l'histoire, et les enfants n'ont pas été toujours vu de la même manière à travers l'histoire. Et bon, une des idées qu'elle lance, bien sûr, le temps ne nous permet pas de développer beaucoup, mais une des idées qu'elle lance, c'est la suivante. Elle dit, autrefois, la famille, donc elle va s'attacher plutôt à la famille qu'au père ou à la mère. Ça lui paraît pas avoir beaucoup de sens de dire qu'est-ce que c'est qu'être mère et qu'est-ce que c'est qu'être père. Je ne le trouve pas par nature, disons. Je ne trouve pas ça intéressant. Elle dit, c'est intéressant de voir... Qu'est-ce que c'est que la famille, la famille autrefois, la famille aujourd'hui? Et elle dit autrefois, les familles ou le comportement dans la famille était régi par des règles très strictes. On savait que le père devait faire ceci, cela, la mère devait faire ceci, cela, les grands-parents faisaient ceci. Chacun avait un rôle bien défini par la tradition. La situation n'était pas toujours équitable pour tous les membres du groupe familial, mais au moins, il n'y avait pas d'angoisse, si on peut dire, parce que tout était clair et précis et prévu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tout est flou. On ne sait pas encore, on ne sait plus exactement ni comment se comporter, ni quoi penser. Et elle donne des exemples, par exemple. Elle dit... On peut former une famille en étant marié ou sans être marié. On peut former une famille plutôt fermée ou plutôt ouverte, plutôt associative ou plutôt close. Enfin, il y a mille formes et on sait bien qu'aucune des formes ne va garantir, disons, qu'on va être de bons parents. Il n'y a pas de scénario qu'on pourrait suivre et qu'on pourrait dire le scénario idéal, c'est ça. Alors, si on fait ça, on sera des bons parents.
Maman, t'es plus ma copine. Je veux plus te voir, tu m'embêtes. Je suis plus ta petite câline. Je vais te casser la tête. Te casser tout en morceaux.
Petit morceau, petit morceau.
Couper avec mon ciseau, grand ciseau, mon ciseau. Tes pieds, tes oreilles, ton dos.
C'est pas beau.
Personne, il va te recoller. C'est pas pour rigoler, c'est pas pour rigoler.
Rigoler, c'est pas pour rigoler.
Maman, t'es plus ma copine. Je vais prendre ton fil qui coule. Je suis plus ta petite câline. Je vais te le mettre autour du cou. Et te serrer comme le bouton.
Petit bouton, petit bouton.
Que t'as mis à mon pantalon.
Pantalon qui est trop long.
Avec un nœud sous ton menton.
Poilou, menton.
Personne, il va te l'enlever. C'est pas pour rigoler, c'est pas pour rigoler.
Alors Annette, toi tu as lu dans ce même chapitre Valeur et Identité un article, une contribution de Martine Chaponnière qui s'appelle Valeur actuelle du mouvement féministe. On connaît bien Martine, on
oui,
en a souvent entendu parler. Est-ce que cette contribution est en fait un condensé de ce qu'elle nous livre, elle nous a livré, ou est-ce que c'est une nouvelle contribution?
Alors il est clair qu'elle se base pour certains arguments sur des recherches, des articles qu'elle a déjà écrite ou qu'elle travaille actuellement. Mais c'est quand même, je trouve, un survol extrêmement instructif sur le féminisme en général et en Suisse en particulier, bien sûr. Moi, j'aimerais d'abord dire que j'aime beaucoup la manière dont Martine Chaponnière rédige ce genre d'articles ou de prestations scientifiques. Parce que c'est vraiment agréable, c'est pas difficile à lire et en même temps, ça reste quand même d'un niveau tout à fait intéressant. Et je ne peux que conseiller à chacun et chacune qui se pose des questions sur le féminisme d'aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore la peine d'être féministe? On entend quand même très souvent ce genre de remarques semi-moqueuses.
Même M. Silberstein l'a entendu.
Oui, bien sûr. et je pense qu'il y a là, alors, des réponses très à la portée de chacun et de chacune, sans aucun snobisme, et ça, sans non plus des considérations trop compliquées. Alors, je ne vais pas faire trop long, mais j'aimerais simplement montrer de quelle façon elle s'arrête à quatre valeurs qui, pour elle, résument l'histoire des femmes, le mouvement féministe aujourd'hui, et comment on peut, en fait, grâce à ces quatre valeurs, faire un lien entre ces deux aspects de la question relative aux femmes dont Evelyne parlait au début avec Michel Ledeuf et dont d'ailleurs on parlait aussi avant. C'est ce problème du féminisme de la différence et le féminisme de l'égalité. Alors bon, je trouve assez comique, si on veut, d'en parler maintenant avec Martine Chaponnière, qui est donc avec Femmes Suisses, qui fait partie du groupe qu'on pourrait dire féminisme de l'égalité, puisqu'elles ont beaucoup lutté pour d'abord l'égalité des droits, pour la possibilité du droit de vote, qui sont les héritières de toute une tradition dans le journal Femmes Suisses. Et en même temps, Martine Chaponnière est une des seules femmes universitaires qui anime un cours séminaire qui peut s'apparenter aux Women's Studies qui sont là. Alors, bon, je trouve que c'est assez amusant de voir, et je crois que c'est vraiment ça l'intérêt de l'article, c'est qu'elle fait le lien d'une manière un peu plus globale, en prenant peut-être une certaine distance face à ces différentes recherches et en précisant justement qu'il faut passer par ces recherches-là, il faut que les femmes s'analysent à la fois comme sujet et objet, mais que ça fait partie d'une démarche indispensable avant de pouvoir réfléchir comme elle le souhaitait, convivance et autres. Mais d'abord, il faut se donner un certain nombre de moyens et il est clair que beaucoup les femmes au niveau de l'université, au niveau de la réflexion scientifique et sociologique, n'ont pas encore toutes les armes en main. Elles doivent les forger, elles doivent les trouver. Et je trouve qu'elle explique bien cette manière-là de fonctionner. Alors je reviens à ces quatre valeurs mises en évidence par Martine Chaponnière. Elle parle de l'égalité, de la dignité, de la reconnaissance du féminin et finalement de la solidarité.
Alors tu nous dis quelques mots de plus, oui, de ces quatre valeurs.
D'accord. Donc, effectivement, l'égalité, c'est en fait cette lutte des femmes pour obtenir les droits civiques, sociaux, juridiques, qui est la plus connue, en fait, qui est donc théoriquement sous toit en Suisse, mais qui n'est pas appliquée, comme on le sait.
Reconnaissant qu'il y a encore un long chemin à parcourir.
Le deuxième problème, enfin la deuxième valeur dont elle cite, c'est le problème de la dignité, entre autres liée à la dignité physique et corporelle. Alors elle parle du problème du harcèlement sexuel. Elle parle aussi d'un problème qui est très grave et pour lequel on n'a pas non plus de réflexion suffisante, c'est le problème de la procréation artificielle. Où il y a aussi où les féministes défendent justement des courants différents. Alors elle essaye, elle, de parler essentiellement de ce problème de la dignité. Reconnaissance du féminin. Alors, il y a effectivement ce problème de la culture féminine ou de la culture féministe et de cette dualité actuelle entre les deux types de mouvements, féminisme de l'égalité, féminisme de la différence.
Et j'aime bien l'idée de la solidarité comme quatrième valeur, parce que c'est souvent une chose que les hommes vivent mal. J'ai constaté
les hommes parlent de fraternité, ils ne veulent pas parler de solidarité, parce que c'est les fratries entre hommes.
Exactement.
Comme ils veulent encore utiliser le vocabulaire, par exemple, de violer la ville, et ils diront facilement les urbanistes, ils parleront de ce type de langage, et ils acceptent mal que les femmes ne veulent pas partager ce langage, ce qui est quand même normal qu'elles ne veulent pas le partager. Alors les femmes parlent de solidarité, les hommes parlent de fraternité.
Alors, moi, j'aimerais juste encore ajouter deux choses à ce sujet. C'est que Martine Chaponnière se pose la question, alors, toujours concernant la reconnaissance du féminin. Elle dit, en fait, vu les progrès évidents de la question féminine dans les années 70 et 80, les jeunes femmes d'aujourd'hui, entre autres les jeunes étudiantes, ont l'illusion qu'elles n'auront plus besoin de choisir entre maternité et carrière, qu'elles pourront tout mener de front et vivre une unité psychologique harmonieuse dans leur double identité de mère et de travailleuse. Bien sûr, il n'en est rien et elle donne un certain nombre de pistes de travail pour montrer à quel point ces choix que les jeunes filles ne sont pas encore chargées de ces responsabilités, entre autres familiales, croient avoir. Et en fait, il y a après toute une série de problèmes qui arrivent et pour lesquels elles n'ont pas encore les moyens, avec lesquels elles doivent compter, elles n'ont pas encore les moyens d'agir dessus. Et concernant la solidarité, alors ça j'ai très envie d'en parler un tout petit moment, c'est qu'elle explique bien que justement en fait ces différents courants féministes, ils sont contradictoires, mais en même temps ils se font critiquer mutuellement, mais de là naît probablement une dynamique de réflexion qui est très intéressante et qui va probablement ouvrir une réflexion plus féconde. Mais elle dit la solidarité fonctionne bien et elle prend comme exemple, vous l'aurez deviné, la grève du 14 juin en Suisse cette année, en expliquant entre autres que bon, on sait que cette grève est partie de l'idée de syndicalistes, j'ai envie de dire, pure et dure, et qu'elle a été en fait suivie et vécue très profondément par des femmes de tous les milieux politiques, et entre autres de quantités de femmes qui sont engagées de différentes manières, soit dans un mouvement féministe ou autre, soit tout simplement dans la société. Et je crois qu'effectivement, c'est dans cette direction-là qu'on peut trouver ce qu'il y a de plus intéressant, de plus fécond et de plus chaleureux dans la réflexion.
Moi, je vais vider la baignoire. Au revoir. Te pousser dans le trou noir. Personne, il va te retrouver. C'est pas pour rigoler, c'est pas pour rigoler.
Alors on va finir quand même en donnant la parole à Sylvia Ricci-Lemmon. D'ailleurs c'est elle qui conclut la revue de Sexe est un monde, c'est normal, c'est elle qui a été la co-réalisatrice de la revue Présence. Alors Evelyne, c'est toi qui as lu sa contribution.
Et je l'ai beaucoup aimée. Elle l'appelle « Et comment ferons-nous pour rester deux ?» Parce qu'elle tient à rester deux.
Je l'ai dit, il est vrai.
Mm-hmm. Alors, elle commence à partir d'une conférence d'Elisabeth Badinter, qui est venue en 1986 à Lausanne ou Genève, je ne sais pas, et qui a parlé de son livre d'alors, L'un et l'autre, où elle constatait dans son livre donc, que maintenant le règne, disons, de l'oppression des femmes est terminé. Maintenant, on est très proche, disons, de la réalisation d'une égalité parfaite entre hommes et femmes. Au fond, on va vers une espèce de société androgyne égalitaire. Et les seuls problèmes qui nous restent à résoudre, elle disait à peu près, ça va être de faire face aux effets pacificateurs, mais potentiellement débilitants, hein, de la nouvelle uniformité des êtres et des rôles. Oula. Pas un programme, bon, de toute façon, très réjouissant. Alors, Sylvia Ritchie-Lempen dit, alors dans la salle, face à ces constatations d'Elisabeth Badinter, une jeune femme s'est levée et a dit « Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. La preuve, c'est que les femmes ont accès à 20 fois moins de professions que les hommes. » Elle a donné toute une série d'exemples où on voyait très bien que l'égalité n'est pas du tout encore réalisée. Elle est encore du règne des rêves. Il y a très peu de choses qui sont réalisées. Alors, bon, ça, c'est une chose. Mais Sylvia nous dit, même si c'était vrai qu'on ait déjà réussi à faire cette société égalitaire entre hommes et femmes, ça signifierait de toute façon que les structures de cette société auraient beaucoup changé. Parce qu'on sait très bien que si les femmes étaient à 50% dans toutes les décisions, dans tous les conseils, dans les parlements, dans les gouvernements, enfin partout, dans les chefs d'entreprise, etc., cette société que nous connaissons d'aujourd'hui, de 1991, serait tout à fait différente parce que, on l'a vu dans quelques domaines, là où les femmes sont entrées disons, à 50% avec les hommes, eh bien, les choses ont changé. Des exemples, c'est par exemple la manière dont votent les femmes. On a pu parler en France de ce qu'ils appellent un « gender gap », vraiment un écart dû au sexe, dans la manière de voter depuis que les femmes votent à égalité avec les hommes. On a vu aussi en Angleterre, par exemple, comment les députées britanniques, du moment où elles sont entrées dans le Parlement et elles ont eu assez de poids pour imposer des choses, ont voulu changer les heures de travail du Parlement, qui ne convenaient pas du tout à leurs problèmes domestiques, etc. Donc quand les femmes entrent à égalité dans la société est différente. Donc, si vraiment cette égalité était réalisée aujourd'hui, nos sociétés seraient de toute façon bien différentes de ce qu'elle est. Mais, bon, on n'y est pas arrivé. Mais il faudrait encore poser un autre problème, dit-elle. C'est qu'on ne peut pas aller vers une espèce d'androgynie égalitaire. Ça n'a plus de sens. Ou alors, une société comme ça, elle serait comme vidée de sa substance. Elle aurait plus de sel, elle dit. On n'y aurait plus le goût de vivre. Parce qu'elle dit, en fait, depuis le fin fond des âges, c'est vrai qu'il y a eu, beaucoup d'injustices, mais il y a quand même une espèce de dynamique entre les sexes qui se font la guerre, mais qui se font aussi l'amour, qui se base sur nos différences sexuées. Nous sommes différents les uns des autres, entre nous les femmes et eux les hommes. Et il faut qu'il reste une différence. Quelle doit-elle être? On ne sait pas. Ça ne doit pas être celle qu'on a aujourd'hui, puisque tout le monde est très malheureux. En tout cas, les femmes sont passablement malheureuses avec cette façon qu'elles ont d'être aujourd'hui. Donc, il faudra qu'on soit égaux, mais il faudra quand même qu'on soit différents d'une certaine manière. Sinon, il n'y aura pas de dynamique, pas d'interaction sociale, il n'y aura pas. Il faut du mystère entre nous, il faut des résistances, il faut des défis. Sinon, vraiment, comme elle dit, il n'y aura pas ce sel de la vie.
l'apport de l'un et de l'autre. Je sais pas, ça, ce que tu dis là et ce qu'elle dit me fait penser à, aux réflexions qu'on mène par exemple sur les cultures, le respect des cultures. Mm-hmm. Quoi, qu'on ne veut pas arriver à un monde où tout le monde parlerait la même langue sous prétexte d'être égalitaire.
Voilà, exemple, voilà, c'est tout à fait comparable. Alors elle dit, il faut, et ça la pensée féministe n'est pas encore attachée à ces problématiques, il faut penser à comment on va reconstruire des identités sexuées, elle appelle ça, qui ne seront pas celles qu'on a aujourd'hui, hein, mais qui seront différentes. Et je terminerai juste par ses propres mots à elle. Si je retrouve dans mes notes.
Nous feuilletons.
Nous feuilletons.
Aujourd'hui, vous aurez entendu beaucoup de bruit de feuilles, mais je crois que c'est parce que la revue est un outil précieux qu'on feuillette à tout bout de champ.
Alors, elle dit... Donc, il faudra être... Mais pour être différent, il faut être deux. Et il faut accepter que l'autre joue un rôle dans la définition de soi-même. Donc, les hommes auront un mot à dire dans ce que nous serons comme en tant que femmes. Et nous aurons un mot à dire dans ce que nous voulons qu'ils soient en tant qu'hommes. Et elle dit finalement, démasquer les stéréotypes sexistes, asseoir soi-même sa propre légitimité, sont des démarches essentielles. Mais... tout aussi essentiel est la reconnaissance de l'autre comme limite et comme phare, comme objet de désir, comme antagoniste et comme défi.
Alors, je crois que c'est une très belle conclusion que Ritchie Lepin donne ici. Et c'est surtout une ouverture pour la suite de notre travail en tant que féministe. Je crois que c'est clair que l'idée qu'on ne se bat pas que... J'hésite sur le « que » parce que je n'ai pas envie de dire « que ». Encore les nombreuses choses que nous devons essayer d'obtenir pour, en tout cas, combler ces différences mais problématiques qui privent les femmes d'un certain nombre de droits, mais aussi qu'il faut qu'on se batte pour ce monde qu'on a imaginé de toutes sortes de façons, mais où on serait, comme elle le dit, on serait encore deux, et non pas chacune les uns sur la lune, les autres sur la terre, comme certaines l'imaginaient à un moment donné. Bon, je crois qu'on peut qu'encourager nos auditrices de venir se précipiter, de venir acheter Présence, Deux sexes, c'est un monde.
Présence 1991.
1991, voilà. Donc, on le rappelle, produit par l'Alliance culturelle romande et qui donc se trouve, comme d'habitude, bien sûr, puisque vous savez que c'est l'objet sous-jacent de notre rencontre mensuelle avec Annette et Evelyne, à la librairie L'Inédite à Genève, donc rue Avenue Cardinal Mermillot. On rappelle peut-être vite les heures d'ouverture, ça fait toujours bien que nos auditrices ne se retrouvent pas devant la porte fermée.
Alors, le lundi matin, c'est fermé, mais c'est ouvert tous les après-midi de 13h30 à 18h30. Le samedi, il y a un changement d'horaire. Pendant le mois de décembre, nous ouvrirons de 10h du matin à 4h de l'après-midi.
Et vous trouverez certainement de magnifiques livres à offrir à vos amis et autres personnes à qui oui. Vous auriez
et
envie de faire un cadeau.
Et en plus, à vos enfants, nous avons spécialement soigné le rayon enfant.
Non sexiste.
Bien sûr, mais quand même.
Plein de petits garçons amusants et de petites filles intrépides.
Où chacun trouve l'un et l'autre. À son goût pour les cadeaux de Noël de vos enfants.
Et d'ailleurs, c'est peut-être ce dont nous discuterons la prochaine fois que nous nous rencontrerons, puisqu'Annette suggérait que nous lisions un livre qui parle de nos fils.
Voilà.
Voilà, et nos auditrices pourraient le lire aussi, peut-être.
Ah ben oui, ben alors annonçons tout de suite le titre.
Il s'agit donc du dernier livre écrit par Michel Fitoussi, Lettre à mon fils. Ce fils, il est très jeune, mais il pose déjà pas mal de questions à sa mère.
Alors, nous vous conseillons, essayez de vous procurer le livre et nous en discuterons toutes ensemble au mois de janvier. Et ce serait bien que vous interveniez dans le cours de notre discussion.
Bien sûr.
Alors, au mois de janvier, Annette et Evelyne, et mille fois merci encore.
Alors, bonne année.
Pas les muscles à fleur de peau et ne fume pas des Marlboro. Je n'aime que les vrais hommes. Pas les plus forts, pas les plus beaux. Pas les champions, pas les héros. Pas les James Bond, pas les oraux. Je n'aime que les vrais hommes, ceux qui n'ont pas connu l'armée. Les objecteurs, les réformés, les insoumis et les curés. Je n'aime que les vrais hommes, pour qui la puissance est un mal. Pour qui la gloire est immorale, ceux qui ne font pas le complexe du mal.
Les vrais hommes.
Je n'aime que les vrais hommes, pas les vieux singes bureaucrates, pas les jeunes loups technocrates, pas les mordus de la cravate. Je n'aime que les vrais hommes, ceux qui écrivent des poésies, ceux qui cultivent le pissenlit, ceux qui fréquentent les pâtisseries. Je n'aime que les vrais hommes, pour qui l'argent a trop d'odeur, pour être mis à la place du cœur, ceux qui ont l'autre sens des valeurs. Je n'aime que les vrais hommes, ceux qui inventent avec leurs mains cet autre monde pour demain, où ils auront le droit d'être humains. Je n'aime que les vrais hommes qui ne font pas trembler leur famille, ceux qui savent encore jouer aux billes, ceux qui préfèrent avoir des filles. Je n'aime que les vrais hommes, ceux qui savent recoudre un bouton, ceux qui donnent le dernier bibon, ceux qui repassent leurs pantalons. Je n'aime que les vrais hommes pour qui la femme est un entier que l'on ne peut pas diminuer, même lorsqu'elle devient leur moitié. Je n'aime que les vrais hommes, les doux, les bons, les généreux, ceux qui portent l'amour en eux, ceux-là le font tellement mieux.
Alors, je vous le rappelle, c'était Chantal Grimm qui nous a accompagnés tout au long de cette discussion avec Annette et Evelyne, les femmes de la librairie L'Inédite, librairie des femmes à Genève, où vous pourrez trouver la revue Présence 1991, Deux sexes, c'est un monde, publiée cette année par l'Alliance culturelle romande. Et avec, je vous le rappelle, un édito assez intéressant, écrit par Gilles Silberstein, le seul homme qui ait contribué à cette revue. Alors, Viviane est déjà là, elle est déjà à son micro, et j'en profite pour que nous vous annoncions d'emblée le sujet de notre prochaine émission, puisque nous la ferons ensemble. Alors Viviane, le titre ?
Les reines du crime.
Attends, je crois qu'il faut que tu refasses, t'es pas allumé. Redis.
Les reines du crime.
Et nous vous offrons des cinquantaines de polars écrits de mains de femmes. Et nous espérons qu'il vous passerait des nuits les plus horribles en compagnie de ces femmes-là. Alors, c'est la semaine prochaine dans Revue Ménage, Radio Zone 93.8. Et dans quelques instants, eh bien, c'est les informels. Mais pour l'instant, c'est la Reine Pipi avec Michel Bernard.
On rencontre quelquefois des personnages un peu bizarres. Ils sont assis sur une petite chaise pliante. Ils ont souvent un oiseau en cage au-dessus de la tête. Mais ces gens-là, on n'y fait pas attention parce que on n'est pas vraiment venu là pour ça. Alors pour réparer cette injustice, voici le blues de la dame Pipi. Quand je regarde les pendules, quand j'ai peur, quand je recule, quand je suis plus très bien, quand je me tiens plus très droite, quand je me sens plus étroite, quand je suis plus sûre de rien, quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a anguille sous roche. Je m'en vais voir la dame pipi de la rue des Quatre Perdrix. Elle chante le blues comme une négresse. Elle dit qu'en bas c'est pas l'enfer, mais qu'elle désespère que les gens ne viennent la visiter que par nécessité et qu'ils repartent sans rien dire, ni mot ni sourire, comme si elle était transparente. Quand on fait 80 kilos, c'est pas rigolo. Alors elle chante pour tuer le temps sur son petit pliant et swing à grands coups de pantoufle, que sous terre elle étouffe et puis qu'elle broie du noir au rythme des chasseaux qui coulent au fond de ses urinoirs. Au rythme des chasseaux qui coulent au fond de ses urinoirs. Du, 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 du. Je perds mon chemin quand je sais pas si je fais bien, quand je me culpabilise, quand je me mets à compter, quand je me mets à ranger, quand je me cherche des églises, quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a anguille sous roche. Je m'en vais voir la dame pipi de la rue des Quatre Perdrix. Elle chante le blues comme une négresse. Elle voudrait peindre une grande clairière dans sa pissotière, avec des arbres et des chevaux, un ciel plein d'oiseaux. Il y aurait aussi des petits enfants qui courent dans les champs. Ces enfants...